Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 62 à 64 de la Sainte Sourate Younes. Notre frère Asie vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés. Qui croit et qui reste pieux, il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 16 octobre 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Conflit israélo-palestinien, Macron rompt avec la diplomatie française. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran ne reculera pas d'un iota sur sa politique envers la Palestine, a réitéré le président iranien. Israël a intensifié ses attaques contre les ambulances et les équipes de secours à Gaza. Des manifestations partout dans le monde en solidarité avec le peuple palestinien et contre les crimes d'Israël. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que la décision éhontée d'Israël de forcer les Gazaouis à fuir leur ville va à l'encontre de toutes les lois internationales et des principes humanitaires. Lors d'une séance du cabinet dimanche soir, le président iranien a fermement condamné la réticence de certains pays et organisations internationales face aux crimes odieux et sans précédent commis par Israël contre le peuple palestinien. Ceux qui gardent le silence face aux crimes d'Israël doivent assumer leurs responsabilités devant le jugement de l'histoire, a-t-il dit. Il a réitéré la politique inébranlable et définitive de la République islamique envers la cause palestinienne. Le président Raisi a averti que le temps presse et que chaque seconde perdue avant de mettre fin au bombardement de Gaza aura des conséquences néfastes. Il a appelé tous les pays à assumer leurs responsabilités face à la situation actuelle à Gaza. Lors d'un appel téléphonique avec son homologue français, Emmanuel Macron, plus tôt dimanche, le président iranien a déclaré que les actions d'Israël contre les Palestiniens faisaient écho aux crimes perpétrés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, avertissant que la guerre prendrait une toute autre dimension si le régime sioniste persistait dans ses attaques. Il a regretté qu'Israël ait mené des bombardements étendus et aveugles contre des cibles civiles, et même utiliser des bombes au phosphore blanc. Le ministère iranien des Affaires étrangères a réaffirmé le soutien indéfectible de la République islamique à l'axe de la résistance régionale dans le cadre de la guerre extrêmement meurtrière menée par le régime israélien contre la bande de Gaza. La République islamique d'Iran a toujours été et sera toujours favorable à la résistance et contre l'occupation, a déclaré dimanche le porte-parole de la diplomatie iranienne Nasser Kanani. Dimanche, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a averti que la République islamique ne resterait pas passive si le régime occupant poursuit sa sauvagerie contre le peuple palestinien. S'adressant au réseau Al Jazeera basé au Qatar, le patron de la diplomatie iranienne a déclaré « Si l'entité sioniste décide d'entrer à Gaza, les dirigeants de la résistance en feront un cimetière pour ses soldats ». Les frappes aériennes de l'occupation israélienne ont ciblé, dimanche 15 octobre, des zones de Gaza avec une intensité sans précédent, tant au nord qu'au sud de la bande de Gaza, rapporte le correspondant d'Al-Mayadin. L'occupation israélienne a ciblé les routes principales de la bande de Gaza et a lancé d'intenses bombes fumigènes dans la partie nord. Les bombardements qui ont visé le gouvernement central de la bande de Gaza ont fait 2 martyrs et plusieurs blessés. Al-Mayadin a fait état de frappes aériennes sur le camp de Nusayrat et les zones densément peuplées de Khan Younes. Une maison de la ville qui abritait des personnes déplacées du nord de la bande de Gaza a été touchée. Les frappes aériennes israéliennes continues et violentes sur Khan Younes ont coïncidé avec des bombardements d'artillerie. Les bombardements sur le quartier d'Al-Amal ont fait 1 mort et plusieurs blessés, tandis que des opérations de recherche sont en cours pour retrouver les disparus sous les décombres. Un grand nombre de Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés après que l'occupation israélienne a ciblé la maison de la famille Abu Mustafa et une autre maison du quartier émirati de Khan Younes. Les frappes aériennes d'Israël ont également ciblé Jabalia au nord de la ville de Gaza, le quartier d'Al-Nasr, la rue Al-Jalal, Gaza City, Tal al-Hawa, Sheikh Radwan, Al-Karama et Al-Tawam. Les environs des hôpitaux d'Al-Shifa et d'Al-Rod ont été aussi bombardés. L'armée d'occupation israélienne a également lancé des fusées éclairantes près de l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza. Le mouvement de résistance palestinien Hamas affirme n'avoir aucune information sur un cessez-le-feu temporaire dans la bande de Gaza qui subit d'intenses bombardements israéliens. Le bureau des médias du Hamas a démenti lundi 16 octobre cette information après que Reuters a rapporté que les États-Unis, Israël et l'Égypte avaient convenu d'une trêve dans le sud de Gaza qui débuterait à 9h du matin, heure locale, 6h GMT, pour coïncider avec la réouverture du poste frontière de Rafah avec l'Égypte. Citant deux sources de sécurité égyptiennes, Reuters indique que le cessez-le-feu durerait plusieurs heures. Israël a également nié le cessez-le-feu avec une déclaration du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu, disant « Il n'y a actuellement aucune trêve ni aide humanitaire à Gaza en échange du retrait des étrangers ». S'exprimant à l'issue d'une rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi dimanche, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé que le poste frontière de Rafah allait rouvrir pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire. Rafah sera rouvert. Nous mettons en place avec les Nations Unies, l'Égypte, Israël et d'autres un mécanisme permettant d'acheminer l'aide et de la transmettre aux personnes qui en ont besoin, a déclaré Blinken. Rafah, à la frontière sud de Gaza avec l'Égypte, est la seule sortie de l'enclave côtière assiégée, les deux autres points de passage contrôlés par Israël étant fermés. La colère contre Israël ne s'apaise pas. Depuis le début des frappes aériennes israéliennes sur les zones de population civile à Gaza, des manifestations de protestation contre Israël et en soutien aux Palestiniens s'organisent presque quotidiennement partout dans le monde, y compris en Europe et aux États-Unis. Dimanche 15 octobre, des centaines de personnes se sont rassemblées dans la ville belge de Liège pour manifester leur solidarité avec la Palestine. Ils ont organisé une manifestation sur la place Saint-Léonard, brandissant des drapeaux palestiniens et des banderoles avec des images du bombardement israélien de Gaza. Ils ont également scandé des slogans soutenant la Palestine et critiquant Israël. Des centaines de personnes se sont également rassemblées à Madrid, la capitale espagnole, et ont manifesté leur soutien à la Palestine. Hier encore, ils étaient des milliers à se rassembler dans le centre-ville de Belfast, capitale de l'Irlande du Nord, pour manifester leur solidarité avec les Palestiniens et exprimer leurs inquiétudes face à la récente escalade du conflit au Moyen-Orient. Les manifestants ont scandé des slogans contre Israël et brandi des drapeaux et des pancartes palestiniennes sur lesquelles on pouvait lire « Vous n'êtes pas oubliés, vous n'êtes pas abandonnés. Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre. Liberté pour la Palestine, sanctions contre Israël et arrêtez d'armer Israël. » La présidente de la Chambre des représentants indonésienne et ses homologues turcs, chinois, sud-africains et russes ont affiché leur protestation contre la négligence envers la question palestinienne commise par le G20 dans la récente déclaration commune des dirigeants du groupe. Selon le bureau de presse officiel du gouvernement indonésien, interrogé sur la déclaration commune des dirigeants du G20 publiée samedi 14 octobre à New Delhi, Madame Puan Maharani, présidente de la Chambre des représentants indonésienne, a déclaré. Dans cette déclaration, la guerre en Ukraine a été évoquée, mais d'autres problèmes mondiaux importants comme la question palestinienne n'ont pas été pris en compte. Madame Maharani a déclaré qu'il a signé une déclaration commune avec ses homologues turcs, chinois, sud-africains et russes, espérant que la question palestinienne sera abordée dans la déclaration commune de G20. Dans cette déclaration commune, il est dit: compte tenu de la guerre en Ukraine et rappelant les négociations de Bali, nous avons transmis nos positions et nos décisions nationales aux Nations Unies. Nous soulignons que tous les pays doivent respecter les objectifs et lois de la Charte des Nations Unies. Toutes les nations doivent s'abstenir de menacer ou de recourir à la force et de piétiner l'intégrité territoriale et l'indépendance politique des autres nations. Le recours ou la menace de recourir à des armes nucléaires est inacceptable. Cette déclaration commune n'a pas été faite parce que nous n'étions pas d'accord sur l'importance de la question de l'Ukraine, mais parce que d'autres questions ont été négligées, comme celle de la Palestine, a déclaré Mme Maharani. Elle a souligné « L'intensification de la guerre contre Gaza et Israël a fait des milliers de morts et de blessés. Il est donc nécessaire de prêter attention à la question palestinienne. » Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. conflit israélo-palestinien, Macron rompt avec la diplomatie française. Le président français Emmanuel Macron a pris une position inhabituellement ferme en soutien à Israël, marquant un revirement significatif par rapport à la diplomatie française traditionnelle envers le conflit israélo-palestinien. J'ai parlé au président Herzog et au premier ministre Netanyahou. Je condamne les attaques menées depuis Gaza sur Israël, ses soldats et son peuple, a déclaré le président français dans un tweet officiel. Cette position de soutien marquée contraste avec la politique étrangère française précédente, qui était souvent caractérisée par une approche plus neutre et moins impliquée dans le conflit israélo-palestinien. Ce changement de ton de la part de la France survient à un moment où le pays connaît des crises diplomatiques avec plusieurs pays africains et arabes. La France insoumise estime dans un communiqué du 7 octobre que l'opération armée des forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. De son côté, le député LFI, Louis Boyard, réagissant à la condamnation des attaques par Emmanuel Macron, a jugé que depuis trop longtemps, la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine. La première ministre Elisabeth Borne a dénoncé la prise de position du parti de Jean-Luc Mélenchon sur le conflit israélo-palestinien. L'hypocrisie de l'Occident, en l'occurrence la France, vis-à-vis des combattants palestiniens qui ont légitimement réagi aux crimes israéliens des plus atroces, est particulièrement forte. Personne ne s'est vraiment soucié des Palestiniens de Gaza, soumis à un blocus imposé par Israël qui les prive des essentiels de la vie. Personne ne s'est vraiment soucié d'apprendre que les Palestiniens de Gaza avaient été soumis à un régime de la faim par Israël. Plusieurs centaines d'enfants palestiniens ne sont-ils pas morts ces 15 dernières années lors des campagnes de bombardement répétées d'Israël sur Gaza? Leur vie ne comptait-elle pas autant que les vies israéliennes? Sinon, pourquoi? Le gouvernement français, si horrifié par l'attaque palestinienne contre Israël, est également celui qui gardait le silence quand Israël coupe l'électricité de la prison qui est Gaza. Là encore, en prétendu représailles. Emmanuel Macron et ses pairs occidentaux peuvent continuer à justifier l'oppression des Palestiniens et leur refuser le droit de résister. Mais leur hypocrisie et leur aveuglement sont exposés à la face du monde.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour un nouveau débat du jour. On va s'intéresser tristement aux évolutions israélo-palestiniennes et les bombardements qui sont en cours dans la bande de Gaza, la mort des civils, des femmes et des enfants dans la bande de Gaza qui est sous blocus total. Les ambulanciers, les secouristes sont en danger, ils sont déjà morts, blessés. On va s'intéresser à ce sujet tout de suite après un petit récit en images. Restez avec nous.
Le massacre des femmes et enfants palestiniens est une tragédie qui déchire le cœur de toute personne sensible à l'injustice et à la souffrance humaine. Ces actes de violence perpétrés contre les civils innocents sont inacceptables et doivent être condamnés par la communauté internationale. Depuis des décennies, le conflit israélo-palestinien a engendré une spirale de violence qui a touché de nombreux Palestiniens, en particulier les femmes et les enfants. Les attaques indiscriminées menées par l'armée israélienne ont causé la mort de milliers de civils palestiniens, dont une grande partie étaient des femmes et des enfants innocents. Les femmes et les enfants palestiniens sont particulièrement vulnérables dans ce conflit. Les femmes, souvent privées de leurs droits fondamentaux, sont confrontées à une violence quotidienne. Elles subissent des humiliations, des arrestations arbitraires et des abus physiques et sexuels. Les enfants, quant à eux, grandissent dans un environnement marqué par la peur et l'insécurité. Ils sont témoins de la violence et de la destruction qui les entoure, ce qui a un impact profond sur leur développement physique et psychologique. Les massacres perpétrés contre les femmes et les enfants palestiniens sont une violation flagrante du droit international humanitaire. Selon le droit international, les civils doivent être protégés en toutes circonstances et les attaques contre eux sont considérées comme des crimes de guerre. Malheureusement, ces principes sont souvent bafoués dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Il est essentiel de reconnaître que les Palestiniens sont souvent les victimes les plus touchées par la violence. Les femmes et les enfants palestiniens sont pris au piège dans un cycle de violence sans fin, où ils subissent des pertes incommensurables. La communauté internationale a la responsabilité de mettre fin à ces massacres et de protéger les droits des femmes et des enfants palestiniens. Les Nations Unies doivent jouer un rôle actif dans la résolution de ce conflit en promouvant le dialogue et en exigeant le respect du droit international. Les États membres de l'ONU doivent également exercer une pression sur Israël qui mette fin à ces attaques indiscriminées contre les civils palestiniens.
Alors, retour au plateau, les émotions sont en comble dans le monde entier, c'est pas exagéré, avec ces images déchirantes. J'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau par Skype et à distance Alexandre Rouget, écrivain et journaliste français. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les frappes aériennes du régime d'Israël, juste pour donner un bilan toujours provisoire, dépassent 1951 morts à Gaza, des civils, des femmes, des secouristes, des journalistes. Au moins, on a signalé la mort d'un journaliste à la frontière, si je ne me trompe pas, libanaise. Malgré ce bilan qui ne cesse de s'alourdir, les diplomates américains sont défendus d'utiliser certains termes au détriment du régime sioniste. Et on a l'impression que les États-Unis cherchent même à légitimiser ces crimes de guerre et ces morts.
Oui, puisque les États-Unis sont partie prenante de ce conflit, et même depuis l'origine, puisque depuis la création de l'entité sioniste en 1948, ce n'est que le soutien financier, économique et diplomatique des États-Unis qui a permis à l'entité sioniste d'exister. Donc il est logique que, encore à l'heure actuelle, eh bien, la diplomatie américaine persiste dans son hypocrisie, sa lâcheté et sa langue de bois en faisant tout pour minimiser une opération terroriste inqualifiable, voire même pour essayer de la légitimer, ce qui n'a absolument aucun sens et qui n'est fait encore qu'ajouter à la honte et au déshonneur des Américains.
Merci beaucoup. Bonjour à Maître Dovelé, juriste en droit international et journaliste indépendant, conseiller politique. Merci d'avoir accepté notre invitation, Arnaud Dovelé.
Oui, bonjour à vous, bonjour à l'équipe et bonjour à votre invité. Toujours un plaisir.
Voilà, on assiste au drame. Et les consultations diplomatiques, les déplacements, les conversations diplomatiques sont multipliées. On a eu Hossein Amir Abdollahian, chef de la diplomatie iranienne, qui s'est déplacé dans le cadre d'une tournée régionale qui l'a amené en Irak, au Liban, en Syrie. Et des conversations téléphoniques de la part d'autres autorités aussi. Nous avons eu dans les infos un déplacement imminent de Mahmoud Abbas, président de l'autorité autonome palestinienne, vers Moscou. Quelle est alors la position de Moscou? Vous pouvez nous parler de la position de Moscou et Vladimir Poutine?
Écoutez, Vladimir Poutine s'est contenté de rappeler ce que normalement, tout le monde devrait savoir, à savoir qu'il est absolument impensable que les massacres de civils continuent. que cette situation aurait pu être évitée si les Américains avaient exercé leur diligence. Partant de là, que la résolution de la situation passe par l'établissement d'un État palestinien. La question qui se pose, c'est avec quel partenaire discuter, puisque rappelons-nous que dans le cadre des accords d'Oslo, il y avait eu une solution, mais que les protagonistes de cet accord, l'un d'entre eux a été assassiné par des radicaux au sein même du pays qu'il dirigeait. Et ensuite, son partenaire dans la paix a été lui-même assiégé pendant des années, jusqu'à ce que, quelque part, on se débarrasse de lui et qu'on favorise une situation où il ne peut plus y avoir de dialogue, puisque il est question avant tout, si on prend en compte l'implantation des colonies, alors même que durant les 5 ans qui suivaient les accords d'Oslo, il aurait dû y avoir non seulement une reconnaissance de l'État palestinien sur 22% de la Palestine historique, mais qu'en fait, du côté de Tel Aviv, il n'était absolument pas question de cela, puisque les actions d'implantation des colonies laissaient entendre que c'était une couverture pour le régime de continuer le processus. Et là, je crois que ce à quoi nous assistons cette fois-ci, c'est un peu c'est l'étape suivante. C'est-à-dire qu'en fait, cet ultimatum qui consiste à demander à plus d'un million de personnes en 24 heures de se diriger vers le sud de la bande de Gaza, sachant qu'il n'y a pas d'électricité, les voies de communication sont complètement détruites, enfin, on ne peut pas se déplacer, il n'y a pas d'eau, ça rend les choses pratiquement impossibles, et on n'entend pas du tout, comme vous le disiez en introduction, des condamnations de la part de la soi-disant communauté internationale sur ce sujet. Et effectivement, ça s'est traduit ce matin par le bombardement indiscriminé d'une colonne de réfugiés. On est encore en train d'évaluer les pertes, mais enfin, c'est un massacre. On assiste à un massacre en direct.
Oui, exactement. On parle, c'est pas exagéré, d'un génocide dans la bande de Gaza. À vous, oui, puisque il y a toutes les, disons, limites et obstacles pour sauver les civils, et ils sont même obligés, selon certains dires, de se déplacer dans les endroits qui sont encore pires. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot génocide, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des commentateurs qui l'utilisent. À vous, monsieur Rouget, Alexandre Rouget, quelles sont les réactions en France? Je sais que les manifestations pro-palestiniennes sont interdites par le gouvernement, mais les réactions du peuple face à ce drame?
Eh bien, le peuple a envie de vomir. Le peuple est fatigué de tous ces mensonges, de ces monstruosités, de l'hypocrisie d'un gouvernement. Hein. On peut dire que le gouvernement de la France, c'est un régime d'occupation sioniste, ma foi, qui interdit au peuple d'exprimer sa parole souveraine. La souveraineté nationale appartient au peuple et réside dans la parole populaire, certainement pas dans les prises de décision infâmes et ignobles d'une poignée de banquiers aux ordres d'Israël. Hein. Je vous rappelle quand même que l'une des plus ignobles fake news, une fausse nouvelle répandue il y a quelques jours par les Occidentaux résidait dans l'annonce d'enfants, de bébés mis en cage, décapités par les Palestiniens. C'est information produite par une journaliste d'un média israélien qui appartient à un certain Patrick Drahi, français de papier, hein. C'est pas parce qu'il a écrit français sur sa carte d'identité que ce monsieur est français. Manifestement, voilà, on a encore affaire à quelqu'un dont l'allégeance appartient à Israël et qui n'a rien de français. Genre, quand on est français, on est libre, on est autonome, on est souverain. Le peuple en est conscient. Le gouvernement, qui est un gouvernement d'occupation illégitime, n'en a rien à faire et fera tout ce qu'il peut pour étouffer et proscrire l'expression de la parole populaire, puisque cette parole a force de loi. Donc à nous de nous exprimer, de faire valoir notre parole pour faire tomber et mettre un terme à l'occupation ignoble et illégitime de ces gouvernements qui font le jeu
d'un pays, d'un État, d'une entité qui est littéralement, effectivement, raciste, terroriste, et qui est en train de s'engager dans une voie génocidaire. Vous avez raison de désigner ce terme. Un génocide, ça désigne l'élimination systématique d'une catégorie de population clairement identifiée. C'est exactement ça qui se passe dans la bande de Gaza.
Merci beaucoup.
Et tout le monde en est conscient en France. Tout le monde.
Merci beaucoup. Arnaud Doblet, à vous. Bon, s'agissant, à part de ces frappes, ces bombardements militaires, on assiste à une guerre psychologique et une guerre médiatique contre le mouvement de la résistance palestinienne Hamas et les Palestiniens. On a eu hier une désinformation qui a été en fait démentie de la part d'une journaliste de CNN s'agissant de la décapitation des bébés, des enfants par le Hamas. La journaliste s'est excusée et l'a rectifiée. Également, de la part de la BBC, le ministre britannique de l'immigration a lancé lundi une attaque cinglante contre la BBC pour avoir refusé, je cite, de qualifier le Hamas de terroriste après son attaque contre Israël. Donc, est-ce qu'on assiste à une guerre qui est peut-être pire, une guerre psychologique pour démoraliser, pour décourager les Palestiniens?
Tout d'abord, je ne pense pas que quoi que ce soit puisse démoraliser les Palestiniens. Si c'était le cas, on le saurait depuis longtemps. Ça fait 75 ans que ça dure. Et la résistance palestinienne est disposée plus que jamais à défendre ses droits et à mettre sa vie en jeu si c'est ce que cela nécessite. Non, par contre, je voudrais revenir sur ce que disait M. Rouget. Il a tout à fait raison. C'est qu'en fait, il n'y a qu'un son de cloche qui est autorisé en Occident. Parce que bon, ça, c'est le cas à Paris, mais aussi le cas dans les autres capitales de ce qu'on dirait aujourd'hui l'Occident collectif. Et partant de là, s'il y a des reconnaissances que je me suis trompé sur l'histoire portant sur la décapitation des bébés, c'est parce qu'ils se sont fait attraper la main dans le pot de confiture, si je puis dire. Il y a ces commentateurs aussi américains, qui doit être aussi israélien, doit avoir un passeport israélien, Benjamin Shapiro, qui a une chaîne YouTube qui fait quand même 6 millions d'abonnés, et il a mis en scène, je crois que c'était hier ou avant-hier, une version donc intelligence artificielle d'un bébé calciné, soi-disant israélien. Et lui aussi s'est fait rattraper par la patrouille, si je puis dire. Donc, effectivement, on assiste à une espèce de surenchère. Ça devient tellement grotesque que les gens ne peuvent que se poser des questions quant à pourquoi on ne peut même pas, évoquer ne serait-ce que la neutralité quelque part, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, bon, pour le dire, ne sont pas forcément impliqués, enfin, concernés, hein, et malgré tout, ces gens-là, eux aussi sont sommés de prendre parti, et de prendre parti pour, soi-disant, le camp du bien, ou comme diraient certains hauts responsables de ces derniers jours, le camp de la civilisation, hein, c'est comme ça qu'ils se présentent. Et donc là, on s'aperçoit qu'en fait, même le narratif leur échappe, quelque part, malgré tous les moyens dont ils disposent. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte de guerre hybride depuis plusieurs années maintenant, et avec la technologie dont on dispose, les gens sont devenus eux-mêmes des citoyens journalistes et peuvent facilement mettre à mal la version mise en avant par les médias officiels.
Mmh. Bien dit. À vous, Alexandre Rouget, s'agissant de la lecture des lois internationales liées aux crimes de guerre, les droits de l'homme, la liberté de la presse. Apparemment, il y a une approche sélective de la part de l'Occident qui a une lecture intéressée par rapport de ses intérêts.
Mais c'est-à-dire que les dirigeants occidentaux ne comprennent que le droit du plus fort. Les droits de l'homme, ils en ont rien à foutre. La dignité humaine, ils ne savent pas ce que c'est. Ils sont eux-mêmes dans un état d'indignité, de déshonneur permanent. Ils sont à un niveau de conscience, d'humanité ou de citoyenneté qui correspond à celui d'un animal, je pense. Ils ne comprennent que la loi du plus fort. Et c'est celui qui a le plus de moyens, de puissance, qui impose sa vérité à tout le monde. C'est ainsi que fonctionne l'Occident depuis toujours, et c'est de ça qu'il s'agit de sortir si nous voulons en finir avec cette barbarie institutionnalisée, qu'encore une fois, c'est le recours, du coup, pour justifier ce droit du plus fort, impose le recours à une rhétorique à base d'inversion accusatrice, mais qui frise effectivement, je ne sais même plus qui frise, qui est en train de sombrer dans un grotesque et dans un dérisoire inédit à l'échelle de l'histoire. Se qualifier soi-même de camp de la civilisation, quand on assassine des hommes, des vieillards, les femmes, les enfants, tous les jours, ce n'est même plus un mensonge, c'est une aberration, c'est une absurdité telle qu'au moment même où vous le dites, vous devriez vous écrouler de honte. On en est à un point où cette aberration devient intenable, et que les gens qui tiennent ce discours doivent mobiliser des ressources, pour le coup, psychologiques, qui frisent la performance sportive. Donc on en a un stade où la prochaine étape risque d'être tragique, puisque les Gazaouis ne quitteront pas la bande de Gaza. L'ultimatum israélien ne servira à rien, et dans ce bras de fer moral, j'ai envie de vous dire, les Palestiniens auront le dernier mot. Encore une fois, ils ont le droit et la légitimité avec eux. Et en face, la force ne pèse rien. Donc je ne sais pas à quoi on va assister, mais pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que le double langage, l'hypocrisie, l'ignominie des Occidentaux éclate à la face du monde entier. Et si, pour l'instant, nous n'avons que notre capacité d'expression et notre parole à exprimer pour nous opposer à cette violence et à ce déchaînement, eh bien, il faut le faire. C'est tout ce que nous avons, il faut le faire. Et en attendant que la parole juste, et que la vérité et que la justice, enfin, fassent force de loi. Et malheureusement, les Israéliens ne comprennent que la force, que le droit du plus fort. Donc tant qu'il n'y a personne pour leur imposer la justice par la force, eh bien, ils continueront leur génocide.
Arnaud Doblet, s'agissant de la situation hospitalière dans la bande de Gaza, les hôpitaux sont débordés. Les hôpitaux de la bande de Gaza sont à un point de rupture. Et les informations nous font part de l'utilisation du bombe phosphore blanc qui est très catastrophique. Comment réagissez-vous ?
Oui, bah écoutez, ça s'inscrit dans ce contexte d'impunité institutionnalisée hein, pour le camp du bien. C'est-à-dire qu'en fait, les hôpitaux sont devenus des morgues puisqu'ils n'ont plus les moyens d'accepter, enfin, d'admettre en urgence les blessés qui pourraient s'acheminer. Et qui plus est, de toute façon, il n'y a plus d'électricité. Donc ceux qui sont déjà hospitalisés n'ont plus accès, s'ils ont besoin de machines ou de respirateurs, pour ne citer qu'un exemple. Donc c'est les condamnés à une mort certaine. Donc, et l'utilisation du phosphore blanc, il n'y a rien de nouveau. Déjà en 2008, durant l'opération Plomb durci, ça avait été utilisé. Donc il n'y a pas de, il y a aucune limite. D'ailleurs, c'est les Israéliens eux-mêmes qui l'ont dit. Le gouvernement israélien a dit qu'il n'y a pas de limite et ils ont appelé à leur soldatesque essentiellement à faire tout ce qu'ils souhaitaient faire et qu'il n'y aurait aucune conséquence juridique quant à leurs actions. Donc ces mots-là restent, hein, de même que les déclarations les premiers jours du ministre de la Défense sioniste qui porte sur l'animalisation des Palestiniens dans un tribunal international, ces propos ont vocation à revenir les hanter. Maintenant, je rejoins M. Rouget, c'est qu'effectivement, en droit international, c'est la force qui prévaut. L'équilibre entre des puissances de force égale est ce qui cristallise des lignes de, si je puis dire, de cohabitation, peut-être pas idylliques, mais en tout cas imposées par l'état des forces en présence. Et j'ai bien peur qu'à l'aune des circonstances encore un peu troublantes quant à les premières heures de l'opération du déluge d'Al-Aqsa, du côté israélien, quand on sait qu'ils disposent d'une technologie assez performante, et sur fond d'affaires concernant le Premier ministre Netanyahou, et partant du fait qu'il est quand même le fils de quelqu'un qui était le secrétaire particulier de Jabotinsky, dont on peut, si on se renseigne, on sait comment ces gens-là conçoivent de l'exercice du pouvoir, et je pense que tout ça, ça a été mis en avant de telle sorte qu'ils essayent de jouer l'escalade, et Et là, l'arrivée presque coordonnée, spontanée d'un groupe aéronaval américain au large des côtes libanaises laisse entendre qu'il y a une coordination avec les Faucons du département d'État. Ça a été d'ailleurs presque semi-officialisé par la visite de Blinken, qui a fait un discours, encore une fois, larmoyant en essayant de créer un système, une fausse équivalence entre la situation actuelle en Palestine occupée et le sort de son grand-père. Bref. Mmh. Donc on voit très bien où tout cela nous amène et j'ai bien peur que les tambours de la guerre se fassent de plus en plus entendre, malheureusement. Mmh. Une guerre élargie.
J'espère que non. Alors, nous avons moins de trois minutes devant nous. Et je crois qu'on va finir avec Alexandre Rouget. On assiste également à une fuite en avant des Israéliens et des alliés, des médias qui sont à leur solde, qui, en assimilant la résistance palestinienne à Daesh. Quand il s'agit d'un enfant palestinien, on parle d'un enfant d'un terroriste. Comment réagissez-vous ?
Mais je vais essayer de voir le bon côté de la chose. La fuite en avant et le mépris des limites, en général, sont les indices d'une certaine panique, d'un certain désarroi, d'une certaine incapacité à gérer une situation que l'on a soi-même créée. Et quand on ne sait pas quoi faire, quand on n'a aucun recours, quand votre parole n'a aucune valeur, vous n'avez plus le choix que d'insister encore plus et de continuer à bafouer la vérité, bafouer les limites, bafouer tout pour simplement maintenir votre position acquise. Et en français, on a une expression pour ça, ça s'appelle « scier la branche sur laquelle on est assis ». Puisque plus les Israéliens continueront dans cette logique-là, plus ils seront haïs, méprisés et considérés par le reste du monde comme un ramassis de criminels et d'assassins sans foi ni loi, indignes à la face des hommes et à la face de Dieu, dont pourtant ils osent se réclamer, mais je gage que se réclamer de l'autorité divine quand on se comporte comme le dernier des assassins, ça ne marche pas. Donc nous en sommes, à mon avis, à une sorte d'accélération finale où les Américains, oui, les Israéliens sont dos au mur, et s'ils veulent s'en sortir, il va falloir qu'ils aillent au bout de leur logique. Logique raciste, logique totalitaire, logique génocidaire. Et c'est à ça qu'il semble se préparer.
Merci beaucoup, Alexandre Rouget, écrivain et journaliste depuis Bugarache. Merci à vous aussi, Arnaud Dovelet, juriste en droit international et journaliste indépendant. Merci à vous, mesdames et messieurs, et merci de votre fidélité. Bonne journée.
Voyage dans l'univers mystique de Molavo. Dans cette série d'émissions, nous allons vous raconter les contes traduits du persan en français, rassemblés dans un ouvrage qui s'intitule « Le Masnavi, 150 contes soufis ». Dès les premières pages, les traducteurs soulignent la subjectivité de l'ouvrage, puisque traduit par fragments seulement et d'une manière relativement libre pour donner le reflet le plus fidèle possible de la pensée de Jalaleddin Balkhi. Qui dit choix, dit donc également interprétation et partialité. Le serpent dragon. Un jour, un chasseur de serpents partit dans les montagnes pour chasser. Il cherchait à capturer le plus grand des serpents. Or, une violente tempête de neige s'abattit sur les hauteurs. Soudain, notre chasseur tomba en arrêt devant un énorme serpent. Il cherchait un serpent, mais il venait de trouver un dragon. Il fut d'abord saisi d'une grande frayeur, mais s'aperçut bientôt que le monstre était engourdi par le froid. Il décida donc de le ramener au village afin que la population puisse l'admirer. De retour au village, il s'écria : « Je viens de capturer un dragon. Il m'a donné bien du fil à retordre, mais je suis quand même arrivé à le tuer. » Le chasseur croyait vraiment le serpent mort alors qu'il n'était qu'engourdi par le froid. La foule accourut pour admirer le dragon, tandis que le chasseur racontait les péripéties imaginaires de cette capture. La populace, prise de curiosité, ne cessait de s'attrouper et attendait que le chasseur soulève la couverture sous laquelle il avait dissimulé l'animal. Le chasseur, lui, espérait tirer un bon profit d'un tel public. Mais le temps qui s'écoulait et la chaleur finirent par sortir le serpent de sa torpeur. Quand la foule vit que ce serpent prétendu mort bougeait encore, elle s'enfuit en criant d'horreur. Les gens se piétinaient les uns les autres pour s'échapper plus vite. Quant au serpent, il avala d'un seul coup le chasseur en lui brouillant les os. Les privations transforment un serpent en ver de terre. L'abondance transforme le moustique en faucon. Va, laisse plutôt le dragon enfoui sous la neige. Ne l'expose pas au soleil. Méfie-toi du soleil du désir, car il peut transformer le hibou en faucon. L'éléphant. On avait parqué un éléphant venant de l'Inde dans une étable obscure. La population, curieuse de connaître un tel animal, se précipita dans l'étable. Comme on n'y voyait guère à cause du manque de lumière, les gens se mirent à toucher l'animal. L'un d'eux toucha la trompe et dit : « Cet animal ressemble à un énorme tuyau. » Un autre toucha les oreilles. On dirait plutôt un grand éventail. Un autre, qui touchait les pattes, dit « Non, ce qu'on appelle un éléphant est bel et bien une espèce de colonne. » Et ainsi, chacun d'eux se mit à le décrire à sa manière. Il est bien dommage qu'il n'ait eu une bougie pour se mettre d'accord. La bien-aimée de l'amoureux. Un amoureux récitait des poèmes d'amour à sa bien-aimée. Des poèmes pleins de lamentations nostalgiques. Sa bien-aimée lui dit « Si ces mots me sont destinés, tu perds ton temps, puisque nous voilà réunis. Ce n'est guère digne d'un amant que de réciter des poèmes au moment de l'union. » L'amoureux répondit « Sans doute es-tu ici. Mais quand tu étais absente, j'éprouvais un autre plaisir. Je m'abreuvais au ruisseau de notre amour. Mon cœur et mes yeux se réjouissaient. Maintenant, je suis en face de la fontaine, mais elle est tarie. En fait, dit la bien-aimée, ce n'est pas moi qui suis l'objet de ton amour. Tu es amoureux d'autre chose, et je ne suis que la demeure de ton bien-aimé. Le véritable bien-aimé est unique, et l'on n'espère rien d'autre lorsqu'on est en sa compagnie. La mare. Un jour, un faucon dit à un canard « Viens habiter dans la prairie. Tu connaîtras le bonheur. Qui t'a marre pour venir avec moi ?» Le canard répondit « Va-t'en. Pour ceux de notre espèce, l'eau est le château fort de la joie. Pour le canard de notre égo, Satan est comme le faucon. Regarde-y à deux fois avant de quitter ta mare. » Le secret du chien. Un jour, Maginon se promenait avec son chien. Il le prenait dans ses bras et le caressait comme un amoureux caresse sa bien-aimée. Un homme qui passait par là lui dit « Oh Maginon, ce que tu fais là est pure folie. Ne sais-tu pas que la bouche d'un chien est sale ?» Et il se mit à énumérer tous les défauts des chiens. Maginon lui dit « Tu n'es qu'un idolâtre des formes. Si tu voyais avec mes yeux, tu saurais que ce chien est le secret de Dieu et la demeure de Leïla. » Pauvre chacal. Un jour, un chacal tomba dans un pot de peinture. Quand il se vit avec son pelage couvert de peinture de toutes les couleurs, il se dit « Je suis un paon, un élu parmi les animaux. » Et prenant une démarche pleine de prétention, il s'en rut rejoindre les autres chacals. Ceux-ci lui dirent « Oh, pauvre chacal, d'où te viennent cette prétention et ces manières ? Es-tu devenu fou ou bien fais-tu le pitre ? Ceux qui mentent et montent en chair pour se faire admirer du peuple voient un jour leur fierté devenir un objet de honte. Ils n'espèrent que les flatteries du peuple, mais leur intérieur est aussi trompeur que leur apparence. L'idiot. Un idiot trouva un jour une queue de mouton. Chaque matin, il s'en servait pour se graisser les moustaches. Puis, il se rendait chez ses amis et leur disait qu'il revenait d'une réception où l'on avait festoyé et mangé des mets bien gras. Son ventre vide mendissait ses moustaches luisantes de graisse. « Oh pauvre, si tu n'étais pas si menteur, peut-être un homme généreux t'inviterait-il à manger ?» Un jour, alors que l'estomac de notre idiot se plaignait auprès de Dieu, un chat déroba la queue de mouton. Le fils de l'idiot tenta de capturer l'animal, mais en vain. De crainte de se faire réprimander par son père, il se mit à pleurer. Puis, il se rendit en courant à l'endroit où son père se réunissait avec ses amis. Il arriva au moment même où son père racontait aux autres son repas imaginaire de la veille. Il lui dit « Papa, le chat a emporté la queue de mouton avec laquelle tu graisses tes moustaches chaque matin. J'ai bien tenté de le poursuivre, mais je ne suis pas arrivé à l'attraper. » À ces mots, tous ses amis éclatèrent de rire et ils l'invitèrent à un repas bien réel cette fois-ci. Et ainsi notre homme, abandonnant ses prétentions, connut le plaisir d'être sincère. We'll be right back.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.